Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Et on se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonjour Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Rav Eli Lemel, on arrive à une très belle paracha, Noé. Noé, on dit, quand on le dit pas en hébreu. Et Noé, Noé, donc, c'est un personnage bien particulier. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, il n'avait pas vraiment... c'était pas sûr qu'il avait tellement envie de monter dans l'arche. Bon, c'est le premier homme juste de notre la Torah, même donc de l'humanité. Mais par exemple, il voulait bien y croire, mais pas trop, quoi. Par certains aspects, moi, des fois, je me reconnais un peu là-dedans. Je dis, oui, bon, c'est bien, ça aide. Je suis pas sûr. Je manque de foi, quoi. Et lui, il est un peu le personnage emblématique de ça. C'est, j'y crois, mais voilà. Si c'est peut-être mieux que je fasse mon bateau, je fais mon bateau. Si c'est pas, je sais pas. Ouais, il est particulier et on a une psychologie bien particulière et qu'on voit bien souvent autour de nous. Et c'est de ça que vous voulez nous parler, Rav Eli Lemel.
Alors, exact. Je voulais vous parler de ça, mais justement, je vais pas aller dans votre sens. Mais c'est vrai que ce que vous dites prend son origine dans un rachis, et on va essayer justement de le décrypter, et c'est un enseignement, je l'ai entendu en tout cas cette semaine d'un rav qui s'appelle Rav Jacobson, qui rapporte le Rav Yitzhak Mberditchov, et donc le point de départ de ma réflexion commence justement par cet enseignement du Rav Yitzhak Mberditchov par rapport à quelque chose en effet qui nous laisse planer un doute a priori sur le personnage de Noé. En effet. Noach, eh bien, est appelé au début de la paracha Noach Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav. Noach était Ish Tzadik, un individu tzadik juste, intègre dans sa génération. Sur place, Rashi, en effet, s'arrête sur le terme juste Bedorotav dans ses générations et donne deux lectures complètement opposées l'une par rapport à l'autre. Dans l'une, il dit ben oui, relativement à sa génération, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Par contre, dans une génération telle que celle d'Abraham, il n'aurait pas été grand-chose. Et puis, seconde lecture, non, pas du tout. Dans une génération comme la sienne, Noé réussit à être quelqu'un de grand. Vous imaginez ce qu'il serait devenu s'il avait été à proximité d'Abraham. Donc déjà, on voit qu'il y a ici deux lectures. Mais là où Rashi, en effet, nous ouvre a priori sur quelque chose qui est surprenant, c'est le fait que le texte nous dit que Noach, eh bien, il rentre dans l'arche « Mipnei mehamaboul ». Traduction, à cause des eaux du déluge. Et en effet, c'est là où Rashi nous ouvre à cette idée-là, que « Mamin veno mamin », il croyait tout en croyant pas, et au fond, il est là. Et maintenant que le déluge commence à arriver, que les choses commencent à monter, alors là, maintenant, il n'a plus le choix, il veut monter. Et il rentre dans cette fameuse arche. C'est quand même un petit peu difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce que Noé, c'est quand même celui qui, pendant des dizaines, plus que 100 ans, est en train de construire cette fameuse arche, alors qu'il a tous les personnages de la génération, tous les individus qu'il croise, qui sont entrés, on dirait aujourd'hui, dans un langage jeune, MDR, mort de rire, en train de lui dire « Mais Noé, mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» On connaît la célèbre chanson « Noé, Noé, que fais-tu dans ce bateau ? Il n'y a pas la moindre goutte d'eau. » Et c'est ce qui se passe. Et donc, Noé, quand même, s'il est capable pendant des dizaines d'années de construire ce bateau au vu au-dessus de tout le monde, avec tous les moqueurs de l'époque, c'est qu'il y croit. Et plus que ça, il est en train de dire aux gens, vous savez, c'est vrai, mais il va y avoir un déluge. Et tout le monde se moque, il continue. Donc dire que Noé n'a pas de foi en Dieu, qu'il n'y croit pas, c'est quand même un petit peu difficile. Néanmoins, c'est ce que le texte semble nous dire. Et là, le Rabbi Levi Yitzhak Mberditchov, dans son commentaire, eh bien, va ouvrir à quelque chose d'absolument passionnant qui, si on réfléchit, a une incidence au fond très importante par rapport à nous, et encore plus peut-être à cette époque. Noé, en vérité, Ma'amin, Veno, Ma'amin, pour mieux comprendre cela, il croit, il ne croit pas, il a confiance, il n'a pas confiance, on va rapporter un dialogue très curieux que nous fait le Midrash entre Noach et Moshe. Ils n'ont pas vécu à la même époque, mais Moshe et Noach dialoguent. Ils sont là, ils parlent, ils sont dans des sphères supérieures. Et Moshe et Noach de discuter au fond qui a le mieux géré sa situation, sa génération, pardonnez-moi. Et Moshe de dire à Noach au fond, j'ai mieux géré. Pourquoi ? Parce que tu constateras que toi, tu as réussi à être sauvé, mais toute ta génération a disparu. Par contre, j'ai réussi à sauver ma génération avec moi, puisque rappelons-nous que lorsque le peuple d'Israël faute, et plus encore cette faute terrible du veau d'or, Dieu dit, bon, mais c'est terminé le peuple juif, ça y est, on arrête tout. Et puis, je redémarre avec Moshe. Moshe, ça y est, c'est bon, on va mettre de côté cette génération qui a totalement dysfonctionné, je redémarre tout avec toi. Et Moshe se bat, il lâche rien. Moshe se lâche, mais il lâche rien. Et il dit d'ailleurs cette phrase, et on va y revenir dans quelques instants, il dit, Veimaï nechenina misifrecha shakatafta. Et si tu ne veux pas m'écouter, ben efface-moi. Moi aussi, je pars avec. Et le Harizal fait remarquer quelque chose de très intéressant. Quand vous prenez le mot mechenina, qui veut dire efface-moi, mecheni, même chet nun yud, eh bien, vous avez les quatre lettres avec lesquelles vous faites deux mots, mei noach, mei noach, les eaux de noach. Comme pour dire qu'au fond, ici, Moshe fait le tikkun, fait une réparation de ce qui n'a pas eu lieu à l'époque de noach, et d'après certains, eh bien, l'âme de noach se réincarnerait, entre autres, dans celle de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe, il est celui qui, au fond, a réussi à sauver sa génération. Mais noach, il a essayé. Et c'est là où, en effet, le Kedushat Lévi, donc, Rabbi Yitzhak Mberditchov ouvre à une idée qui est très, très forte. Il dit, au fond, c'est quoi ce manque de foi ? Eh bien, c'est un manque de foi et de confiance, non pas en Dieu, évidemment, mais en lui-même. Noach ne pensait pas qu'il pourrait, qu'il arriverait à gagner ce combat avec Dieu pour pouvoir tenter de sauver cette génération. Il ne pensait pas qu'il pensait qu'il ne pourrait peut-être pas convaincre cette génération de faire tchouva. Et c'est sur cela dont on parle. C'est-à-dire que, au fond, Noach est celui qui, en effet, a réussi à se sauver. Alors, qu'on soit bien clair, Noach n'est pas du tout le personnage que certains voudraient imaginer comme étant totalement centré sur lui-même. Je m'occupe de personne, c'est ma petite vie. Absolument pas. Noach a pris des risques. Le Midrash me rapporte qu'en effet, à l'époque où il construit l'arche, il prend des sacrés risques. Parce qu'au fond, il est là et il est générateur de désordre. Mais néanmoins, eh bien, quand il monte, parce que l'eau monte et il monte seul, on dit au fond, mamine, veno mamine, il croyait qu'il pourrait, mais au plus profond lui-même, peut-être qu'il n'était pas suffisamment convaincu de quoi ? De la force qui était à l'intérieur de lui et du fait qu'il pourrait en effet y réussir. Chose que Moshe a, et ce n'est pas pour rien que l'Ari HaKadosh nous dit, eh bien, la réincarnation de Noach, elle se trouve dans Moshe qui lui dira « Mecheni ». Non, mais si c'est comme ça, tu m'effaces. Et Mecheni, c'est « Mei Noach ». J'ai bien compris qu'en vérité, ici, l'enjeu, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Noach, c'est-à-dire d'avoir suffisamment confiance en soi pour être capable de pouvoir se battre et arriver à un résultat. Et cette idée, elle est au fond très intéressante parce que, vous savez, dans Pirkei Avot, Al ta'amin be'atzmecha ad yom motcha. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Mais de quoi parle-t-il ? Ils disent, ne pense pas que tu as tout réglé, mais par rapport à toi-même. C'est-à-dire, non, mais moi je me connais, moi je ne ferai plus telle bêtise. Non, mais moi je me connais, je peux aller sur une plage et puis mes yeux ne partiront pas à droite et à gauche. Non, mais moi je me connais, je peux sortir avec tout le monde et je sais très bien que ça ne fera rien. Non, là-dessus on lui dit, non, tamin batsmecha, sache que tu restes un être humain et sois capable d'être vigilant parce que les attaques du Yetzer Hara, elles sont là, les attaques du mauvais penchant, elles sont là. Par contre, aie confiance en toi, dans le fait que tu peux changer les choses et que tu peux te transformer et surtout que tu peux peut-être à un moment te battre pour aider les autres et que l'histoire, elle change. Et pourquoi ce commentaire, au fond, m'interpelle très fortement, parce que vous savez, actuellement, avec ce qui se passe en Eretz Israël, eh bien, on est là, et puis on dit aux gens, il faut faire la tefila, il faut prier, il faut dire des psaumes, il faut faire des actions. Beaucoup de gens disent, bon, d'accord, on va le faire, mais il faut être convaincu. Il faut être convaincu, oui, en effet. Et je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Cette histoire, c'est une histoire vraie, c'est à l'époque de la Haskalah, à l'époque, vous savez, dans lequel c'est le moment dans lequel il y a ce que l'on appelait le siècle des Lumières, qui a préfiguré à tellement de drames dans le peuple d'Israël, puisque, eh bien, au bout d'un moment, les gens abandonnaient la Torah. Alors, il y avait une pièce de théâtre qui était jouée, je ne sais dans trop quelle ville de Russie, dans laquelle, je vous le dis très rapidement, on représentait l'histoire du peuple juif qui part au combat. Et la Torah nous dit que quand on partait au combat, on dit d'abord, quel est l'homme qui a épousé une femme cette année? Il ne part pas au combat, il reste chez lui. Quel est l'individu qui a planté une vigne? Il reste chez lui. Quel est l'individu qui a un champ? Il reste chez lui. Quel est l'individu qui a inauguré une maison? Il reste chez lui. Quel est l'individu qui a peur, et dit nos textes, qui a peur des fautes qu'il a pu faire? Et à ce moment-là, il reste chez lui. Et donc, on voit qu'au fur et à mesure, dans cette pièce, il y a plein d'acteurs, et chaque fois qu'on dit quel est l'homme, quel est l'homme, quel est l'homme, il y a des groupes qui s'en vont. Et puis à la fin, qui y reste? Eh bien, il reste deux, trois vieillards qui ont l'apparence des maîtres de l'époque, entre autres du Raprem de Brisk, et qui partent à la guerre. Et bien sûr, tout le monde s'esclave. Quand on a raconté cette histoire à Raprem de Brisk, il a dit, mais ils ont totalement raison. Mais ils ont juste oublié une chose, c'est qu'ils sont partis, mais ils ont gagné. Et ça, nous savons qu'aujourd'hui, le clan Hachem, eh bien, il y a une armée, mais une armée immense, l'armée de nos frères et de nos sœurs. Et j'ai des membres de ma famille qui sont sur ces fronts très concrets, aujourd'hui, dans les tanks, oui, de ceux qui vont. Mais il y a une autre armée derrière. Et de la même manière que ceux qui sont sur le front, ils ont ce moral, cet état d'esprit. On va y aller, on va faire, Bezrat Hashem, ceux qui sont à côté, eh bien, les tfilot, les teilim, tout ça, on doit avoir cette conviction chevillée au corps, que ça aussi, et pas ça au passage, mais que c'est aussi fondamental, et que l'un et l'autre, on est intimement liés, et que notre bataille, elle peut amener la victoire. Et cette bataille, c'est la bataille de tout le monde et de tout le clan d'Israël. Être convaincu et avoir cette confiance et cette conscience de la force qui nous habite chacun, aussi bien comme Moshe va faire pour se battre pour le peuple juif. Oui, on peut convaincre. Oui, on peut aider. Oui, on peut ouvrir. Oui, on peut amener des gens à un moment à s'interroger. De la même manière, dans des moments pareils de notre histoire, eh bien, cette conviction, et je vous en parle, et en vous en parlant, je me convainc moi-même, parce que c'est pas simple d'être profondément convaincu de l'impact immense que peut avoir la dimension spirituelle dans tous les éléments de notre vie. Comme le dit le Nefesh HaChaim, Raprem Ivologin, il dit « Da ma le ma'ala mimra », sache que tout ce qui vient d'en haut, mimra, ça provient de toi. Nous avons cette force spirituelle et elle joue un rôle fondamental à côté, évidemment, de cette force concrète des armes qui est là. Et si je peux me permettre, et je me permets, eh bien, ce Shabbat, je propose à toutes les auditrices et à tous les auditeurs, dans les Beth Knesset, dans les synagogues, de créer un vrai silence, qu'on n'entende que des mots de prière, pour que le silence des synagogues crée le silence des armes. Nous savons que le Beth Knesset, c'est le lieu de rencontre avec HaKadosh Baruch Hu. On aura tout le temps de commenter l'actualité pour ceux qui ont envie à l'extérieur de la synagogue. Soyons capables de faire nous un effort. Nos frères et nos sœurs sont sur le front et ils font des efforts colossaux. Ils sont là, dans le froid, pas dans la peur, mais ils sont le froid, mais ils vont se battre. Alors battons-nous contre nous-mêmes, dans nos synagogues. N'ayons pas peur de nous dire, on va faire cet effort de ne pas parler, ni pendant la lecture de la Torah, ni le Kaddish, ni la Chazara, ni même pendant toute la Tfila. Et donnons à travers cela les forces spirituelles dont nos frères et nos sœurs ont tellement besoin, dont nous avons tous besoin. Voilà, c'est un message, je le ressens très fortement. Vous savez, au moment de Khmelnytsky et Marchemo, quand,
quand les hordes cosaques ont détruit tellement de communautés, le Tosfot Yom Tov, qui était un grand maître de l'époque, a fait une bénédiction spéciale pour toutes celles et tous ceux qui allaient faire attention de ne pas parler à la synagogue. Mesdames, vous êtes là-bas, vous savez prier, vos prières sont fondamentales. Et même si certaines personnes n'ont pas appris à prier, priez avec votre cœur. Soyez véritablement les armes dont le peuple d'Israël a besoin pour aider Bezrat Hashem, tous ceux et toutes celles qui sont sur le front, à amener à une réussite totale et une Geoula Shlema.
Elle est belle. Hein. Je suis vraiment... je trouve ça magnifique ce que vous venez de dire. Allez, on fait comme ça. Donc, on a entendu deux choses de Rav Eli Lemel. On fait un effort de se taire. C'est génial. Notre réponse à nous, on n'est pas des soldats. Notre réponse à nous, c'est par le silence. Respecter le silence, la gravité du moment. Surtout pendant le Kaddish, surtout pendant la lecture de la Torah. Et ben, ça sera le challenge de notre émission. Et que le maximum de gens qui nous écoutent fassent ça tout le temps, évidemment, mais déjà au moins demain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, toute l'idée, si j'ai bien compris, Rav Eli Lemel, de votre drachat d'aujourd'hui, c'était la ferveur, la conviction. Voilà, la conviction.
Être convaincu de tout ce que l'on peut faire profondément. Ah.
Rav Rosenberg aussi nous disait ça, il disait « Si tu le fais parce que, bon, il faut bien le faire, ben c'est rien. Si tu le fais parce que tu es sûr que toi, ce que tu es en train de dire maintenant, ça va aider à ceux qui sont là-bas, par exemple, puisque nous, en fait, on parle de ça, on parle de nos familles qui sont là-bas, nos frères, nos sœurs. Si tu es persuadé que ça va se faire, là, ça va servir. Mais si tu le fais parce qu'il faut bien le faire, ben, c'est... »
C'est peut-être un peu différent.
Ouais. Rav Eli Lemel, merci pour ces très belles paroles. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai. Shabbat Shalom.
À vous et à tout Am Israël.
Et surtout à vous. Hein. Franchement,
bah oui. À et vous aussi, vous savez, on y est tous. Hein. C'est une guerre mondiale.
Non, et en plus de ça, il se trouve que c'est un petit peu le sujet que vous voulez aborder ce soir, parce que c'est le problème de l'unité, effectivement. Alors, on s'est tous félicités que dans les pires moments, les Juifs arrivent à retrouver leur unité. Vous aviez beaucoup parlé de ça. Nous, à Radio Shalom, on avait beaucoup insisté sur l'idée d'Ardout, d'unité nécessaire. Et il semble qu'on soit en train de la retrouver. Que Dieu fasse qu'elle dure et qu'elle reste longtemps. Amen. Mais vous voulez aussi revenir sur le fait que dans la paracha de cette semaine, on parle du Hamas.
Et oui, effectivement, mon cher Bernard, on a une règle. Let milta de lor misa betora. Il n'y a pas de chose qui ne soit pas exprimée, au moins en allusion, dans la Torah. Effectivement, dans la paracha de Noach, au chapitre 6, au verset 11, on trouve le verset suivant. La terre s'était complètement pervertie, corrompue devant Elohim, devant Hachem, devant Dieu. Et la terre s'était remplie de Hamas. Le Hamas, c'est le vol avec violence. D'accord ? C'est-à-dire que les générations, les hommes et les femmes de la génération du déluge s'étaient tellement pervertis que non seulement ils étaient débauchés, mais en plus de ça, ils pratiquaient le vol légal et le vol avec violence. D'accord. Alors c'est finalement le ce qui a scellé finalement leur décret. Alors le traducteur, c'est Ankelos, va dire la chose suivante. Pour le mot vatishachet aaret, il va dire veitrabalat ara. La terre s'était remplie de chabala, c'est-à-dire de blessures. Et il continue et il va traduire le mot Hamas, il va le traduire par chatofin. La terre s'était remplie de khatofin. Khatofin, ça fait référence au mot l'artof. L'artof, c'est kidnapper, c'est enlever avec violence, enlever subitement. L'artof tadvarim, c'est les arracher de cette manière. Et donc, il y a une allusion ici dans ce verset, d'accord ? La terre, on peut dire ici, la terre sur laquelle nous vivons, d'accord ? Elle s'est complètement remplie de violence, les trabala, il y avait de la violence, c'est la traduction, et elle s'était remplie de Hamas, le Hamas l'a investi, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des khatofin, il a enlevé des gens. Il les a enlevés et il les a emmenés donc en captivité donc à Gaza. C'est une allusion, bien évidemment. une allusion. Mais c'est intéressant, on retrouve quand même le mot dans la Torah. Alors, de manière maintenant plus précise, donc pour ce qui nous concerne là maintenant, va-t-il aller à Retz Hamas ? On a un ennemi qui s'appelle le Hamas. Quelle est la caractéristique de cet ennemi ? La caractéristique de cet ennemi, c'est que c'est un ennemi génocidaire. C'est un ennemi qui a clairement le projet de génocider tous les juifs d'Eretz Israël. Et le peuple qui se tient derrière lui, enfin le gouvernement en tout cas qui se tient derrière lui, c'est le gouvernement iranien. Et les Iraniens, ça vient du mot, vous savez que l'Empire Perse s'appelait l'Empire Perse, ça s'appelait pas les Iraniens. Les Iraniens, ça fait référence à Arien. D'accord. Ce qui fait dire à beaucoup de monde que finalement les Iraniens jouent un peu ici le rôle de Amalek. Et c'est intéressant parce que le projet de Amalek, c'est non seulement de tuer des Juifs, mais c'est d'en mourir. Vous savez que les Allemands, à la fin de la guerre, ils savaient qu'ils allaient perdre la guerre. Mais c'était important de continuer à remplir des trains, d'accord, pour emmener des Juifs vers donc les chambres à gaz. Il aurait été beaucoup plus utile, disaient les généraux allemands, de transporter les trains vers le front en transportant des munitions et des soldats. Non, il fallait réquisitionner des trains pour tuer des Juifs. La caractéristique d'Amalek, c'est qu'il aime le Juif, il déteste le Juif à en mourir. C'est-à-dire que il va attaquer et il va en mourir, et il sait qu'il va en mourir. Alors c'est la caractéristique, par exemple, de Amalek qui nous attaque à la sortie d'Égypte. Il nous attaque à la sortie d'Égypte, Amalek, il sait très bien qu'il va mourir, mais l'essentiel, c'est de refroidir la baignoire, comme on lui dit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Israël est au sommet de sa forme sur le plan spirituel, aimé, adulé ou craint de l'ensemble des nations, et en fait, Amalek vient montrer qu'on peut les attaquer. Ils vont mourir. Ils le savent qu'ils vont mourir. L'essentiel, c'est que le peuple d'Israël soit affaibli sur le plan spirituel et sur le plan de la considération et de l'admiration qu'on lui porte. Ça nous rappelle quelque chose, quand même. D'accord. Et même David Ameller, lorsqu'il parle de ses ennemis qui nous attaquent, il les compare à des abeilles. De la même manière que les abeilles meurent, quand elles piquent, de la même manière, elles piquent, elles meurent, de la même manière, les Amalekim, ils attaquent, ils piquent et ils meurent. Et c'est la même chose lorsque Moshe Rabbeinu rappelle que les Bnei Israël ont voulu rentrer en Eretz Israël, ils se sont confrontés à des tribus survivantes de Amalek, et quand elles attaquaient comme des abeilles. C'est-à-dire qu'elles mouraient en même temps qu'elles s'attaquaient. Il y a donc ici un élément qui est un élément fondateur et structurant dans le modus operandi, dans la manière de faire de Amalek. Et de ce point de vue-là, le Hamas et le Hezbollah et l'Iran, évidemment, c'est exactement ce qui les illustre, exactement ce qui les structure, c'est détester le juif au point d'en mourir, au point de se détruire. Je vais rajouter autre chose par rapport à la situation, et ça c'est très intéressant parce que on nous dit que le monde a été détruit parce qu'on est arrivé au Hamas, c'est-à-dire finalement à la dispersion complète des énergies. Les civilisations humaines se détestaient. La tour de Babel n'a pas la génération de la tour de Babel n'a pas été détruite parce que les hommes de cette génération savaient faire le shalom entre eux. Et ça aussi, c'est un élément qui doit beaucoup nous interpeller. Pourquoi l'instrument, le bâton divin, parce que on peut créer sur le bâton, mais ce bâton il est tenu par quelqu'un. Et quelqu'un, c'est Hachem. Pourquoi Hachem il utilise ce bâton? C'est quoi ce miroir déformant et hideux qui nous est tendu ici? Alors on l'a dit pendant des mois, on l'a dit sur cette antenne, on l'a dit, on l'a redit. La division, la haine gratuite, la violence qui s'est emparée de ce pays. Et là, c'est absolument extraordinaire. Tout se retourne. En quelques heures, tout se retourne. Et là, c'est le vrai Israël qui apparaît. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Je l'ai dit et je le répète à longueur de message. Et j'ai envie de le redire chez vous. Le Rabbi Lubavitch, lui, disait que les Juifs de Kippour ne... On les Juifs de Kippour, ils portent un masque. Ils disent, pas du tout. Ils enlèvent le masque le jour de Kippour. Pendant l'année, ils portent un masque, mais le jour de Kippour, on voit le vrai visage. Mais c'est la même chose pour le peuple juif. On va dire, en temps normal, entre guillemets, il peut ouvrir le visage de la dispute et de la division. Mais c'est complètement superficiel. Parce que dès que l'adversité arrive, il enlève ce masque, et là, on voit le vrai Israël apparaître. Qui révèle une unité organique, une unité spirituelle qui est de l'ordre du neshama collective. L'amour qui règne dans le peuple juif au moment là où je suis en train de vous parler et au moment où les gens nous écoutent, c'est un amour qui ressort de la même intensité que l'amour d'Hachem pour son peuple. C'est-à-dire que c'est un amour inconditionnel. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de division, il n'y a que l'amour. Et c'est un amour qui ressort de cette neshama collective, de cette âme collective du peuple juif. Ça n'est pas l'union sacrée, comme on disait avant la Première Guerre mondiale en France. Parce que l'union sacrée, elle maintenait les gens dans leurs différences. Là, ici, c'est quelque chose qui révèle une unité organique, intrinsèque, totale et absolue. Et ça se voit et ça se dit de manière très puissante, notamment dans les bataillons de l'armée, où les soldats savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre, avec une unité, là aussi, une proximité, une fraternité et un amour qui est absolument débordant. Et ça, c'est le point fondamental qu'il faut tenir. Alors les gens vont dire, mais alors quoi, on a besoin d'attendre d'en arriver là pour se le montrer. Il faut parfois qu'Israël, qui est comparé à l'olive, soit pressé comme une olive pour montrer son jus, en quelque sorte, pour montrer son huile, pour montrer de quoi il est capable. Mais je vais vous dire une chose. Même dans les périodes de division comme celles qu'on a connues pendant l'année, finalement, je pense que chacun d'entre nous a compris qu'on était en train de partir un peu trop loin. Même ceux qui insultaient, même ceux qui parlaient avec virulence, je pense qu'ils comprenaient, d'une certaine manière, même de manière subconsciente, qu'ils allaient un petit peu loin. Parce que je ne crois pas, hormis quelques néchamotes perdus du Erev Rav, quelques âmes perdues qui appartiennent à ce qu'on appelle le Erev Rav, c'est-à-dire des gens qui sont juifs biologiquement, mais qui sont là pour détruire le peuple juif de l'intérieur. Hormis ces quelques néchamotes-là, 99,99999% du peuple juif appartient à cette neshama collective dont j'ai parlé, et donc même en temps normal, entre guillemets, ou un temps où il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des disputes, des divisions, en réalité le subconscient parle et dit attention, on est en train d'aller trop loin. Et je pense qu'on se l'est dit plusieurs fois dans cette année. Simplement, on était emporté dans la dispute et on a eu du mal à le reconnaître. Alors voilà, cette gzera, ce décret est arrivé. Là maintenant, Israël fait une tshuva collective. C'est une tshuva de shalom et d'amour. C'est une tshuva collective. C'est ça la tshuva collective. Et cette tshuva, elle va réveiller la rachmanout, elle va réveiller la bonté d'en haut. Elle va permettre au peuple juif de sortir vivant, plus fort, plus spirituel et plus vivant que jamais de cette épreuve. Parce que nos ennemis croyaient nous détruire et nous affaiblir. Pas du tout. Ils nous ont renforcés, ils nous ont unis et on est beaucoup plus fort, intrinsèquement plus fort, parce qu'on se montre à nous-mêmes, on la montre à Hachem et donc Hachem va nous le renvoyer en miroir, cette force-là.
Eh bien, Rav Mordechai Biton, sur ces paroles et sur cette volonté de rester solidaires les uns les autres, ce qui peut se faire d'ailleurs avec le sourire, hein, on n'est pas que solidaires dans les mauvais moments. Donc, nous, on est très heureux de vous avoir à Jérusalem tous les vendredis. Rav Mordechai Biton, je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
Nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shabbat Shalom.
Bonsoir Shabbat Shalom.
Rav Gueh, on va continuer notre réflexion sur Parashat Noach, évidemment, mais vous voulez intervenir spécifiquement sur la tour de Babel. Alors c'est l'une des histoires les plus connues au monde, mais comme toujours, ou comme très souvent, les moins bien comprises. On ne comprend pas, par exemple, quelle est l'ampleur de la punition pour mériter une telle réponse. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur la tour de Babel, Rav Gueh?
Alors, effectivement, la tour de Babel, il n'y a pas beaucoup, dans la Torah, il n'y a pas écrit explicitement la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il voulait exactement faire. Parce que c'est assez complexe, écrit « Nasel Anushem », nous allons nous faire un nom. Dvarim Achadim, il parlait la même langue, il parlait le Lashon HaKodesh, la langue sainte, l'hébreu, mais on ne dit pas clairement quelle était leur faute. On voit que Dieu les a punis en dispersant, c'est-à-dire en créant les différentes langues que nous connaissons aujourd'hui, en 70 nations, mais on ne comprend pas vraiment quelle était leur volonté, leur velléité. Alors déjà, il faut comprendre que le lieu qu'ils ont choisi, c'est ce qu'on appelle Shinar, c'est la région de Bassora, le berceau des civilisations, un lieu donc où se rejoignent le Tigre et l'Euphrate. Et cet endroit-là, c'est l'endroit où les morts du Maboul se sont réunis. Parce que c'est une cuvette. Et c'est là-bas que tous les corps ont été enterrés, enterrés tous en... Voilà, de même, il n'y a pas eu personne qui les a enterrés, mais c'est de fait, ils sont tombés là-bas. C'est donc un grand cimetière. Et dans cet endroit-là, ils ont décidé, Nimrod, très précis, c'est Nimrod, qui est le leader de cette époque, décide d'ériger une ville et une tour. Alors, il faut bien comprendre qu'en traduction moderne, créer une ville, c'est créer une société, et créer une tour, c'est créer un principe, c'est-à-dire un objectif, on appelle ça spirituel, qui va réunir toute la société que vous allez créer autour de la ville. La ville, c'est un lieu social, on installe des gens, et on leur dit, construisons une tour. Et la tour, nos sages expliquent que le but était de chasser Dieu. Dieu avait été considéré comme un Dieu qui punit, qui est dur, qui est difficile à accepter, à supporter. Il fait le Maboul, il envoie le Maboul. Donc eux, au lieu de le remercier d'être, on va dire, escapé du Maboul, ils décident plutôt de le chasser. Alors, effectivement, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Le Midrash le dit d'une façon, on va dire, un peu enfantine pour qu'on comprenne. Mais il dit qu'ils allaient monter sur la tour pour, avec des épées, faire la guerre à Dieu. En fait, c'est une façon imagée de dire qu'ils avaient trouvé un système pour chasser Dieu. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est lié aux manipulations du nom saint. Ils avaient des connaissances très fortes dans les secrets des anges, etc. En deux mots, sans rentrer dans les détails, ils voulaient faire en sorte que Dieu reste dans le ciel et que la terre soit aux hommes et qu'elle n'a aucun compte à rendre. Ça, c'était leur principe. Et c'est l'origine de tous les idolâtries, c'est-à-dire l'idolâtrie plutôt comme une volonté de se débarrasser de ce poids que représente Dieu, en essayant de garder cette certaine liberté. Et ce qu'ils veulent, c'est la liberté, c'est d'être capable de décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent devenir et ce qu'ils vont faire, etc. Et donc, tout simplement, dans cette tour de Babel, Dieu voit qu'il est chassé, et donc il va les disperser. Il n'y aura plus cette unité parce qu'ils vont construire une société dont le but, c'est quoi ? C'est d'installer le confort, le bien-être pour tout le monde, avec en plus aucun risque d'être puni par Dieu, parce qu'ils croient en Dieu, hein, on est bien d'accord, ils croient en Dieu, ils croient dans la punition de Dieu, mais ils pensent qu'ils peuvent se débarrasser de Dieu en disant « Bon, écoute, on te demande rien, mais laisse-nous gérer tout seul ». Et cette volonté de se séparer de Dieu nous fait vraiment penser à quelque chose que nous connaissons aujourd'hui. C'est une société athée ou agnostique qui veut organiser une société autour d'un modèle économique, par exemple, ou d'une ambition économique, et uniquement une ambition économique, peut-être humaniste aussi, peut-être, mais sans que Dieu intervienne. Une volonté de se libérer du joug, du poids que représente Dieu, de ses obligations que les religions apportent et demandent, exigent, et se disent, voilà, on va se libérer. Et cette volonté-là, c'est Ir ou Migdal, c'est-à-dire une ville, c'est-à-dire une société, et Migdal, c'est une tour, mais en fait, c'est un projet. Alors aujourd'hui, j'habite pas loin de la Défense, donc je m'imagine, la Défense, c'est quoi ? C'est un centre économique important en France. Est-ce qu'on peut créer une société sans Dieu et sans qu'il y ait d'objectif spirituel ? C'est là le sujet. Évidemment, Dieu va sanctionner par cette dispersion, parce qu'il va en fait nous faire comprendre que toute unité qui ne passe pas par une croyance en un Dieu unique est vouée à l'échec. Et on le voit, on essaye de créer des unions européennes, on a beaucoup de mal à créer des unions qui sont basées sur l'intérêt, c'est-à-dire que chacun veut y gagner, mais lorsque les intérêts sont divergents, bah évidemment, l'unité, c'est terminé. Et donc Dieu nous dit que pour réussir une unité, il faut quelque chose qui soit au-dessus de nous. C'est-à-dire que ce ne soit pas notre intérêt personnel qui soit en jeu, mais c'est celui, c'est Hachem, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est d'ailleurs le cas aussi dans un couple. Normalement, s'il y a une différence entre monsieur et madame, ça doit être la Torah qui doit trancher, ça doit être quelque chose qui soit au-dessus d'eux, et pas chacun en essayant d'obtenir des intérêts personnels ou des voilà. Et ça, c'est très important parce que, tout simplement, Akadosh Baruch Hu a dit l'unité, réussir l'unité, c'est seulement par la présence d'Hachem. Et c'est, je pense que, si, évidemment, il y a une unité qu'on ressent lorsqu'on se défend, lorsqu'on a un ennemi commun, mais le but c'est d'arriver à trouver une unité au-delà des situations de crise, et pour que cela se fasse, il faut quelque chose qui soit au-dessus de nous, au-dessus de chacun d'entre nous, et qui nous réunisse parce qu'on a le même objectif. Avoir le même objectif, c'est ça qui nous fait créer l'union, et l'objectif commun qui nous réunit, c'est Hachem, parce qu'il est Echad, et que nous sommes aussi un Goy Echad, et c'est comme ça qu'on doit réussir. Évidemment, les gens de la génération du Maboul ne l'entendent pas du tout de cette façon-là, ils se disent, la génération de la tour de Babel ne l'entendent pas comme ça, ils disent on est unis, mais notre union, c'est pour construire des tours et pour chasser Dieu. Et donc ça, c'est tout à fait quelque chose qui ne doit pas exister. Et je me permets de faire une petite allusion par rapport à un événement que j'ai lu hier soir. Je racontais, je voyais dans un article que l'armée israélienne avait eu un doute quant à l'installation d'alerte dans les moshavs, dans les kibbutzim qui se trouvent justement près de la bande de Gaza. Vous savez ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est en fait une alerte lorsqu'une infiltration terroriste a lieu. Il y a une sonnerie, il y a une sirène, et qui avertit tous les membres du kibbutz qu'il y a une infiltration qui est en cours. Alors, ça n'a pas été installé près de la bande de Gaza, ça a été installé en Judée-Samarie, mais pas dans la bande de Gaza. Et on s'est demandé, mais comment ça se fait? Pourtant, ils sont véritablement très proches du Hamas et de Gaza. Et la réponse, c'est qu'ils avaient une entière confiance dans la barrière de sécurité, qui a coûté beaucoup d'argent, qui était truffée de capteurs très très haut niveau, de très très grande qualité. Et en fait, ils se disaient, c'est pas la peine de mettre ce système d'alerte, puisqu'on a, on a une barrière très forte, très, très, très sophistiquée qui nous protège. Alors je pense que toute personne aujourd'hui comprend mon message. Effectivement, Hachem va nous dire la chose suivante. On a le droit de s'appuyer sur rien du tout qui est de chair ou de sang ou tout simplement de la technologie. La technologie, ça peut être très très impressionnant, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez, mais si on s'appuie trop dessus, eh bien tout simplement, on se rend compte rapidement que voilà, Hachem nous a montré la fragilité de toutes ces technologies et comment, lorsque Dieu veut, eh bien, malheureusement, ça ne sert à rien. Alors, je disais la chose suivante. Chacun d'entre nous a sa ville et sa migdale. C'est que chacun d'entre nous, quelque part, ne veut pas trop s'appuyer sur Dieu. Il essaye de s'appuyer sur sa force, sur son argent, sur ses capacités intellectuelles, sur ses relations. Et effectivement, je pense que dans cette période, et par un chat noir en plus, nous devons toujours lever les yeux au ciel et nous dire que c'est Dieu qui nous sauve et nous protège, et surtout pas avoir trop confiance ni dans la science et ni dans les progrès technologiques, ni dans toutes sortes de philosophies dans lesquelles Dieu est mis, on va dire, à l'extérieur et est chassé, tout en étant très vigilant que notre religion ne devienne pas celle que nous voyons chez le Hamas, une religion de mort et de destruction et de haine, mais une religion, au contraire, qui nous permet de nous réunir, d'aimer non seulement tous les juifs, mais tous les êtres humains. Une religion de vie, une religion de construction, mais en rappelant que c'est parce que Dieu est au-dessus de nous que nous arrivons à dépasser nos intérêts personnels au bénéfice de la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'on crée l'unité et pas autrement. Moi, je pensais à une petite idée à partager avec la communauté, en souhaitant à chacun un Shabbat Shalom, qu'on entend de très très bonnes nouvelles, et que Dieu protège les soldats d'Israël, qui nous ramène les otages en bonne santé, et qu'on entende de très très bonnes nouvelles très bientôt.
Rav Guay, je vous remercie en vous écoutant. Je vous ai peut-être que le mot aussi qui pourrait aider à vous comprendre, c'est le mot harmonie. Donc avec chacun à sa place finalement, puisque l'autre nom de Dieu, c'est aussi Shalom. Peut-être qu'il y a aussi une idée comme ça pour retrouver la véritable harmonie, c'est d'accepter que voilà, il y a quelque chose au-dessus de nous, et c'est ça l'harmonie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Alors, le mot Shalom, il est proche du mot Shalem. Shalem qui veut dire Shlemut, qui veut dire justement être entier. Comprendre que chacun d'entre nous forme un petit morceau de cet ensemble, et que cet ensemble, comme vous le dites, c'est Hachem qui nous permet de le réaliser, comme vous dites, en ayant chacun sa place. Nous avons les soldats de Tzal qui travaillent sur le terrain et qui se risquent leur vie, et il faut que toute personne qui n'est pas sur le front, eh bien, il se mobilise par la prière, par l'étude, par la multiplication des mitzvot envers son prochain, et aussi en aidant, de façon très concrète, nos frères en Israël.
Eh bien, on va le faire, et d'ailleurs, il se trouve que Radio Shalom a lancé une opération de soutien à Zaka. Zaka, vous savez, ce sont ces personnes qui ramassent les corps après les attentats, ou malheureusement après le massacre du 7 octobre, qui les enterrent. Et ils nous ont donné un numéro de téléphone qui est le 01 74 900 600. 01 74 900 600, voilà, c'est le numéro de téléphone où on appelle et on dit le don que l'on souhaite faire, ou bien on se rend sur la page allodon.fr/Zaka. Rav Guay, merci de nous enrichir au niveau cadre de notre réflexion et de nous permettre de faire des belles mitzvot comme celle-ci. Je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shem lo yivne bayit, shalom leivoy naboy, yim Hashem lo yishmarich, shav shokat shoy mai. Yim Hashem lo yivne bayit, shalom leivoy naboy, yim Hashem lo yishmarich, shav shokat shoy mai.